Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La réunification de l'île de Chypre est peut-être à portée de main, comme la Turquie et les États-Unis semblent penser. Toutefois, les points d'achoppement sont encore nombreux, comme la question du règlement des biens de nombreux chypriotes grecs ou turcs déplacés en 1974. Leyla Gandhi à Amman, l'animatrice et globetrotteuse de choc, embarque ses téléspectateurs de la télévision marocaine 2M et 2M Monde à la découverte de la Jordanie. À suivre également la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Créée en 1960 après avoir subi diverses occupations étrangères, ottomanes mais aussi vénitiennes, hellènes et plus récemment britanniques, la République de Chypre s'est d'abord organisée de façon bicommunautaire avec sa majorité grecque et sa minorité turque. Mais l'île se retrouve partagée en 1974 à la suite du coup d'état manqué de la junte au pouvoir en Grèce contre le président de l'île, Mgr Makarios, ce qui pousse la Turquie à intervenir militairement. Depuis lors, la partie grecque a adhéré à l'Union européenne tandis que la partie turque vit plus ou moins sous la perfusion financière d'Ankara. Si pendant des années, le dialogue s'est révélé difficile, voire impossible, entre les deux communautés, il semble que les choses évoluent puisque des négociations se sont ouvertes au printemps dernier sous l'égide des Nations Unies en vue d'une réunification. La Commission européenne est même très optimiste sur leur issue. La ligne verte de partition est aujourd'hui ouverte en 7 points, dont 2 à Nicosie. Les Chypriotes turcs en profitent d'ailleurs largement pour travailler côté grec, où les conditions de vie sont bien meilleures. Charalambos Petinos, bonjour.
Bonjour.
Historien, spécialiste de Byzance et de géopolitique de la Méditerranée, auteur de plusieurs essais sur la Turquie, sur Chypre, l'Europe ou encore la Méditerranée. Alors rappelons d'abord que la principale caractéristique de l'île de Chypre tient à son ancrage en Méditerranée orientale, au carrefour de 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Cette position stratégique explique-t-elle que la situation politique de l'île n'ait pas bougé depuis plus de 40 ans ?
Disons que la situation géographique de Chypre a fait son bonheur et son malheur en même temps. Son bonheur dans la mesure où c'est un pays qui est riche en culture, avec des influences diverses. Vous l'avez très bien noté, au carrefour de 3 continents. Donc Chypre, la civilisation chypriote, a été influencée par toutes les grandes civilisations nées et développées dans le Moyen-Orient et en Méditerranée. Ensuite, c'est évident que la situation chypriote, du point de vue géostratégique, elle est très intéressante et explique toutes les occupations que l'île a connues à travers les âges.
Précisément, qu'est-ce qui achoppe ? Quels sont les points délicats qui sont en négociation et qui sont difficiles à surmonter ? Par exemple, la question des gens qui ont quitté leur territoire et qui voudraient retrouver leurs biens d'avant 1974, c'est cela ?
Sur la question des propriétés, il faut tenir compte à chaque fois des décisions des instances internationales, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'instance phare en Europe, qui gère toutes les questions de violation des droits de l'homme des individus. Il y a eu énormément de Chypriotes grecs qui ont introduit des requêtes contre la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour empêchement d'utiliser leur propriété, de jouir de leur propriété. À chaque fois, la Turquie a été condamnée parce que la Turquie est, in fine, la puissance qui contrôle effectivement le nord de Chypre. Là, je cite presque textuellement les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, le propriétaire légitime d'un bien situé aussi bien au sud qu'au nord, ce sont les propriétaires, allez, en schématisant, qui étaient propriétaires en 1974. Le fait que la Turquie a distribué aux colons turcs ou aux chypriotes turcs déplacés de force, comme on a dit tout à l'heure, vers le nord, ne change rien à la question de la propriété. À preuve, les négociations actuelles ont abordé évidemment cette question et il y a une entente préalable pour ce qui concerne la solution de cette problématique-là. C'est que on a créé 22 cas différents de propriété, c'est-à-dire l'occupant actuel, le locataire actuel, le propriétaire d'origine, 22 cas d'espèces différents. Mais on reconnaît le droit individuel à la propriété. Donc, les Chypriotes grecs expulsés du nord et les Chypriotes turcs obligés d'aller vers le nord en 1974 demeurent propriétaires de leurs biens. Il y aura, à la fin, quand il y aura une proposition de solution finale, si on y arrive à la solution finale de réunification de l'île, il y aura même un tribunal des propriétés qui est prévu dans les négociations, afin que ce tribunal règle toutes les questions relatives à ce problème qui est vraiment très sérieux. Et la question de propriété, je termine là-dessus avec ce sujet-là, la question de propriété est énormément dépendante de la question des ajustements ou réajustements territoriaux. Actuellement, la Turquie occupe les 37,5% du territoire chypriote. Il y aura des réajustements territoriaux, évidemment, pour que les deux instances, les deux régions, occupent à peu près le pourcentage du territoire qui leur revient par rapport à leur population.
Et ça concerne par exemple la ville de Varosha, la ville fantôme de Varosha. Elle est concernée directement par ce que vous dites à l'instant.
La ville de Varosha, c'est la ville qui est restée, une partie de la ville qui est restée, une ville fantôme. Elle n'a pas été occupée ni par les colons turcs, ni par les chypriotes turcs. L'armée turque l'a conservée, fermée de cette manière-là.
Elle est dans la banlieue de Famagouste.
Tout à fait. C'est la ville ancienne de Famagouste, c'était entre les murs, hein, et il y avait l'extension de cette ville-là qui s'appelle Varosha, qui est la ville fermée. Cette ville-là a fait l'objet de beaucoup de propositions à travers le temps depuis 1974. Le gouvernement chypriote grec souhaitait toujours que cette ville, d'ailleurs il a fait des propositions dans ce sens-là, que cette ville devienne un laboratoire pour la solution fédérale de Chypre. C'est-à-dire qu'on aurait pu créer une ville qui serait administrée par une entité autre que chypriote, par les Nations Unies, par l'Union Européenne, que sais-je, afin que les habitants légitimes de la ville retournent chez eux et habitent avec leurs compatriotes chypriotes turcs dans le même espace. D'ailleurs, il y a plusieurs comités de la société civile en ce moment-là qui travaillent sur cette question-là. La partie turque jusqu'à maintenant dit que la question de Famagouste donc fait partie de la solution globale de la question chypriote et sera réglée à la fin. Néanmoins, je crois que ce serait vraiment un laboratoire grandeur nature pour le vivre ensemble entre les populations chypriotes, entre musulmans et chrétiens.
Alors, sur la question précisément des colons, rappelez-nous d'ailleurs ce que c'est que cette question des colons sur la partie turque de l'île.
Déjà depuis 1974, avec dès l'occupation, disons, de la partie nord de l'île, les propriétés laissées derrière par les chypriotes grecs expulsés ont été attribuées au fur et à mesure, soit à des chypriotes turcs déplacés vers le nord, mais beaucoup plus à des colons turcs amenés de la Turquie. L'objectif de cette politique turque, c'était de changer évidemment la démographie du pays, la structure démographique du pays, et de dire, ben voilà, nous avons plein de gens qui sont là, qui sont devenus chypriotes turcs, parce qu'on leur accorde la nationalité chypriote turque, entre guillemets, nationalité, parce qu'elle n'est pas reconnue. Donc, une grande partie de la communauté chypriote turque est partie à l'étranger, a émigré, parce que les conditions de vie créées n'étaient pas bonnes. Donc, en amenant énormément de colons en plus, nous sommes arrivés actuellement à une situation vraiment inextricable, dans la mesure où il y a environ 80 000 chypriotes turcs actuellement dans la partie occupée de l'île, mais il y a en même temps presque 200 000 citoyens turcs amenés de force. À ces citoyens turcs, on a accordé la nationalité, comme je disais auparavant, entre guillemets, toujours nationalité, ce qui fait que ils contrôlent même la volonté politique des chypriotes turcs. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais dans les négociations, le principe premier, c'est que les colons doivent partir. Il s'agit d'une volonté politique découlant d'un crime de guerre. l'invasion, donc il faut qu'ils partent. Néanmoins, tout le monde reconnaît que certains cas particuliers peuvent être traités différemment. C'est-à-dire que les mariages mixtes, les enfants nés de ces mariages doivent devenir chypriotes dans l'État fédéral et rester à Chypre en tant que citoyen à part entière de la République de Chypre. Ces personnes peuvent être estimées à 40 000, 50 000 à peu près, un chiffre de cet ordre-là.
Alors finalement, on voit bien quel est le poids, la pression, la présence d'Ankara, donc de la Turquie, dans ce débat et dans ces négociations. Il y a également la découverte de gaz offshore il y a à peu près 2 ans, en 2014, dans cette région. Et là, on sait que Ankara a des vues sur ces réserves. Est-ce que finalement la Turquie n'est pas le décideur, le juge, presque le juge de paix, si je puis dire, dans la résolution de ce conflit ?
La solution finale et la clé de la solution est toujours à Ankara, entre les mains d'Ankara. Il ne faut jamais oublier ça. En ce qui concerne Chypre, on peut négocier, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut arriver à une solution si Ankara ne veut pas avancer. Ça ne va pas aller.
Merci Charles Ambos-Pétinos. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste des relations politiques en Méditerranée orientale et notamment spécialiste de Chypre et de la Turquie.
Orient Hebdo sur RFI.
Leïla Ghandi est tout à la fois reporter, journaliste d'opinion, animatrice de télévision, photographe franco-marocaine. Son émission « Voyage avec Leïla Ghandi », diffusée chaque mois à la télévision marocaine, est devenue une figure incontournable du paysage audiovisuel au Maghreb. Après la Palestine, la Norvège, l'Égypte ou encore le Vietnam, elle nous emmène ce dimanche à Amman, en Jordanie, où elle a rencontré des personnalités étonnantes, à commencer par une animatrice de radio très populaire.
Nous sommes dans les studios d'une des stations radio les plus importantes de Jordanie qui s'appelle Saut El Rad. Et nous allons à la rencontre de Diala Dabas qui est très populaire ici parce qu'elle a une émission tous les jours qui s'appelle El Haki Sah, Parlons Vrai, où elle aborde les problèmes quotidiens, les problèmes de société. Les auditeurs l'appellent d'ailleurs beaucoup. Avant ça, elle présentait le morning show de la fameuse chaîne télé Roya.
Est-ce que dans ton émission Parlez Vrai, les femmes arrivent à s'exprimer librement ?
Oui, nous arrivons à parler librement. Nous n'abordons pas les questions se rapportant au roi ni à sa politique. Pour le reste, il n'y a pas de problème. Mais nous savons quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir.
Vous abordez même des sujets politiques ?
Oui, on peut parler politique, mais mon émission ne porte pas sur ces questions. J'évite les sujets politiques et religieux, car chacun a son opinion, et on finit par se taper dessus avec les auditeurs.
À découvrir également une femme en salopette et aux longs cheveux blonds, première femme plombier de Jordanie, ou encore une sénatrice, membre de l'ONG la plus ancienne du pays, qui milite pour faire évoluer les lois et les mentalités. Voyage avec Leïla Ghandi, demain soir sur 2M et 2M Monde.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, vous revenez sur l'affaire du soldat qui achevait un assaillant palestinien à Hébron alors qu'il gisait au sol après avoir été abattu.
Oui, c'est encore cette semaine le sujet qui fait la une des journaux avec des développements. Le soldat a été mis en liberté mais confiné dans une base militaire. Le chef d'accusation n'est plus meurtre mais homicide et cela pourrait encore être modifié au début de la semaine prochaine après l'autopsie du corps du jeune assaillant palestinien. Dans la presse Eric, on peut suivre les différentes manifestations et prises de position en faveur de ce soldat dont l'identité n'a toujours pas été publiée. Le secouriste, c'est le soldat en question, qui a mis le feu au poudre, titre Yediot Aharonot, et le journal s'élève contre le coup de téléphone passé par le Premier ministre Netanyahou au père du militaire. C'est une grossière tentative d'influencer le tribunal, estime un commentateur. Plusieurs chroniqueurs font remarquer que le chef d'état-major est l'objet de critiques acerbes pour avoir pris fait et cause contre l'action du soldat dès le début de cette affaire. Et puis Haaretz cite le premier grand leader israélien. « Il y a des Israéliens », avait affirmé David Ben-Gurion, « qui pensent que tuer des Arabes est une mission sacrée ».
Alexandre, la presse arabe accorde une large place au décès de l'architecte anglaise d'origine irakienne, Zaha Hadid.
Oui, et jamais architecte arabe n'a eu droit à autant de louanges. Alors, il est vrai que la reconnaissance internationale du génie de l'architecte irakienne est une source de fierté dans un monde arabe qui a le sentiment d'être mal aimé quand il n'est pas accusé de tous les maux de la terre. Alors les journaux multiplient les images des œuvres de Zaha Hadid, tandis que la presse égyptienne regrette le report d'un projet de l'architecte en Égypte pour cause de révolution du 25 janvier 2011. Un report qui, aujourd'hui, est définitif.
Et puis, la peine de 3 ans de prison pour l'intellectuelle égyptienne Fatma Nahout a été confirmée.
Oui, la presse panarabe rapporte l'info et fait état des critiques des médias sociaux, mais le journal d'opposition égyptien Al-Maqra, lui, fustige la décision de justice par un énorme « wanted », le mot anglais qui figurait sur les affiches des criminels recherchés morts ou vifs dans le Far West. Le journal accuse l'État de livrer les intellectuels à Daesh, le groupe État islamique. Il écrit « Cessez de tenter d'attirer l'attention du président Sisi sur le danger que représente l'accusation de mépris des religions pour la sécurité nationale. Il le sait et n'a pas l'air de s'en soucier. » Et de conclure par ce titre « Merci de nous avoir trompés avec le mensonge du renouveau du discours religieux, car entre-temps, nous n'avons vu que l'inquisition. »
Michel Paul, encore des affaires de corruption qui touchent la classe politique israélienne.
Et c'est le sujet qui passionne le plus les Israéliens ce week-end. Deux personnalités politiques font l'objet d'enquêtes pour corruption. L'un d'entre eux est le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, qui a déjà effectué dans le passé une peine de prison pour le même motif. L'autre est le chef de l'opposition, le travailliste Yitzhak Herzog. Ce dernier réagit très fort. Si quelqu'un essaie de me faire tomber, eh bien il risque de se prendre un coup politique qu'il n'oubliera pas de sitôt. Aryeh Deri, lui aussi, proclame son innocence. Il est qualifié par la presse de suspect immédiat et un éditorialiste demande pourquoi ces affaires éclatent maintenant et sa réponse en filigrane, des élections seraient-elles en vue ?
Michel, la plus haute instance juridique israélienne s'attaque au rabbinat.
En gros, la Cour suprême israélienne donne le feu vert aux conversions non liées au rabbinat israélien, ce qui signifie en clair que d'autres courants du judaïsme, les ultra-orthodoxes, mais aussi les conservateurs et les réformistes, pourront procéder à leur propre conversion, comme cela se pratique en dehors d'Israël. Et Eric, croyez-moi, il s'agit d'une véritable révolution qui risque de faire encore beaucoup de bruit.
Alexandre, vous nous apprenez qu'une chanteuse émiratienne a été écartée du programme Arab Idol pour racisme.
Oui, racisme à l'égard des Libanais, de la part de cette chanteuse, Ahlam, qui a qualifié les Libanais de vendeurs de falafel, et d'autres qualificatifs plus méprisants. Alors des propos qui ont provoqué une vaste campagne sur les médias sociaux libanais qui a réclamé son interdiction d'entrée sur le territoire. Une interdiction d'autant plus gênante que Ahlam fait partie du jury de Arab Idol, un programme qui est tourné tout simplement à Beyrouth.
Michel, pour conclure, votre photo du jour.
Eh bien, cette fois-ci, c'est une caricature. Le chanteur Elton John arborant des drapeaux israéliens, une référence à une nouvelle directive exigeant des artistes étrangers de faire allégeance à Israël s'ils désirent s'y produire. Après publication de cette affaire cette semaine, elle a été aussitôt abandonnée.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain, tout de suite, un nouveau journal sur RFI.